L'Express du 25 janvier. Ça achève ce mois de janvier-là et ça va se terminer sur une grosse tempête, Martin. Est-ce que tu es prêt?
Ben oui. Écoute, je... Excusez, parce qu'il y a de quoi qui a parti qui devait pas. Sorry. Ben oui. Ça fait une coupe pareille qu'on a hein, cet hiver. C'est sûr que moi, je de par, sans aucune prétention, de par ce que je fais dans la vie, tu sais, mes rideaux sont pas ouverts souvent. Fait que...
Quand tu fais des réserves d'eau froide et de canage, un paquet de papier de toilette, c'est bien important avant de tempête, il faut s'acheter ben, tous les rouleaux de papier de toilette qu'on peut.
Puis là, écoute, je te trouve rayonnant, Frank, dans ce nouveau décor. Je trouve que tu as moins l'air cadavérique. Et, tu sais, c'est pas mal rule number one, tu sais, d'essayer de faire en sorte que ce qui est pas idéal soit minimisé. Ça va avoir pris deux mois, tu sais, avant qu'on allume.
Ouais, avant qu'on allume que ma grosse face agrandit en plein écran. C'est agressant, puis ça peut être rough, ça sandwich, quand on est en train de dîner. Fait que si on a coupé l'appétit avec ma grosse barbe dans les dernières semaines, on s'en excuse. Puis on est-ce que cette formule-là va aider à mieux faire passer la sandwich du midi? Mais voilà, c'est vrai. Ça fait du bien de rafraîchir un peu l'image. Et puis aussi, ben, écoute, c'est un show qui en est à ses premiers balbutiements. Pareil, on est dans nos premières semaines, premiers mois, tu sais. Fait qu'il y a encore des ajustements. Puis, comme je suis pas assez riche pour me payer un gros studio de TV, ben, Colin, présenté
join
comme ça,
club.
Ça, c'est moins pire.
Join the club. Hey, je commence en faisant une cheap plug, OK? Ben oui, je le sais que sur la planète Twitch québécoise, il y a quelque chose de gros à tous les mercredis soirs, évidemment.
Oui.
Sauf que je veux quand même faire une petite plug parce que ce soir, dans le carré rond, sur Touski TV, qui est un show qui parle principalement de lutte professionnelle, on reçoit notre chum à tous les deux, Nick Dénommé des Illuminés du Québec. Fait que ça va être pas mal de fun. Je suis bien content d'accepter notre invitation. Fait que la cheap plug est faite.
Ah oui,
faire un tour, c'est à 7h, vous allez revoir l'annonce passée. C'est à 19h et c'était tous les mercredis.
Alors, voilà, la face de Nick Dénommé se digère très bien, agrandi ou non, ça va très bien passer. Ben, je vous souhaite un bon show, je suis certain que ça va être excellent.
Thank you. Ben, hey Frank, je suis excité parce que je te starte ça si tu me permets, je veux pas hijacker le show.
Ah non, vas-y.
Parce que ça vient de passer, ça fait juste, tu sais, on a... C'est le genre d'article détail à venir, là, mais c'est là qu'on est. Simon Houle, cet ingénieur maillet qui, pendant sa probation, a commis des gestes pour lesquels il avait été reconnu coupable précédemment et pour lesquels il avait reçu une absolution avec un juge très, très conciliant, n'est-ce pas?
Oui, qui prenait en compte sa carrière, là, importante.
Oui, ça a été plaidé. En fait, la décision a été rendue ce matin. Il sera incarcéré pour 12 mois. La Cour d'appel du Québec a tranché. Et moi, regarde. Comment dirais-je? Prix de consolation, 12 mois, c'est assez. C'est pas à moi de le dire. Je suis pas juriste. Je ne suis pas sa victime. Sauf que, par contre, moi, je pense que c'est une réparation d'un exemple probant de je vais le dire, là, le juge qui a donné l'absolution à Simon Houle. Je vais vous lire, en fait, ce qui a été mentionné dans la. Relatons les faits, OK? Moins de deux semaines après avoir bénéficié d'une absolution pour agression sexuelle et voyeurisme, grâce à sa bonne moralité, l'ingénieur Simon Houle aurait empoigné les fesses d'une autre femme sans son consentement dans un bar de Cuba. Mickey Vachon est sous le choc depuis son retour au Québec le 5 juillet après un séjour d'une semaine aux Memories! Quel choix de resort! Memories Caribe Beach Resort!
Ouais, bad memories, ouais.
Ouais, c'est ça. Il a été, après avoir plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement une amie et pris des photos de ses parties intimes lors d'une fête à Trois-Rivières en 2019, le tout à son insu, le juge avait estimé que les conséquences d'un casier judiciaire seraient disproportionnées puisque Simon Houle ne pourrait plus, pour Tipide, voyager pour son travail. Simon Houle aurait démontré qu'il est une personne de bonne moralité, entre guillemets, et que ses crimes sont contextuel et ponctuel dans sa vie.
OK, fait que c'est un bon gars, il a une bonne moralité. Puis c'est arrivé rien qu'une fois au chalet, puis c'est arrivé juste une fois au chalet là, excepté il a jamais fait ça excepté au chalet. puis le juge a dit ouais, OK, c'est une erreur ponctuelle, c'est arrivé une fois dans ta vie, puis ça pourrait nuire à ta carrière, ce qui ferait une trop lourde conséquence par rapport à la gravité de ton geste. On va te laisser aller, puis on va se fier à ta bonne moralité pour que ça arrive plus. Puis à la première occasion où il se pousse dans le coin de Cuba, probablement se croyant à l'abri de toute accusation, ben, Colin, la bonne moralité a encore pris le bord. Moi, sais-tu quoi? Je me questionne sur sa bonne moralité. Il est peut-être bon pour afficher une bonne moralité, mais quand il en a la chance, ben... il a les mains baladeuses. Fait que je pense que le juge qui lui a donné l'absolution au début doit s'en mordre les doigts jusqu'au coude. Parce que apparemment, il n'a pas su bien lire ou prendre la mesure de la soi-disant bonne moralité de Simon Hull.
Au départ, le DPCP demandait une peine de 15 à 18 mois de prison. Je te relate un peu les faits. Là, je parle spécifiquement de ce pourquoi il a plaidé coupable et qu'il a obtenu l'absolution. Une agression sexuelle s'étirant pendant au minimum 24 minutes dans au moins trois pièces différentes d'un appartement. 9 photos des parties intimes de la victime gardées dans son cellulaire pendant des semaines. Les arguments soulevés en appel par le directeur des poursuites criminelles et pénales révèlent d'autres détails troublants au sujet des crimes commis par l'ingénieur Simon Hull, qui a obtenu une absolution. C'est le juge Mathieu Poliquin qui avait prononcé cette absolution-là en citant les raisons que je vous disais tantôt. C'est un bon gars.
Ouais, c'est juste un petit 20 minutes d'une pièce à l'autre puis 9 photos. Colin, c'est pas comme un geste déplacé puis voyons, qu'est-ce que je fais là? T'sais, non. Ça a duré plusieurs minutes. Il l'a suivi d'une pièce à l'autre. Il a pris des photos. Je veux dire, c'est moi, je sais pas, ça rentre pas, dans ma tête, ça rentre pas dans la catégorie geste ponctuel et anodin ou impulsion. Ben, non, tu sais.
Moi, tu sais ce que ça me donne comme impression, Frank? Mm. C'est comme si le juge avait dit, oh, pauvre Tipit, c'est fait pogner. On n'est pas pour scraper sa vie pour ça, là, tu sais, regarde, là, il a fait une niaiserie un soir de brosse, là, tu sais,
ben c'est la perception qu'on peut en déduire, puis que plusieurs personnes ont pu avoir, fait que, tu sais, moi, je... Tu sais, on parle souvent de sentence bonbon, de laxisme, des fois, on parle sans savoir de quoi on parle, ça, c'est vrai, mais cet exemple-là, Colin, ça aide pas la cause, en tout cas, de ce juge-là, là, qui semble manquer de jugement.
Ben, moi, en tout cas, encore une fois, là, ce que l'histoire ne dit pas, parce que je le précise à nouveau, là, tu sais, la mention a été carrément que détail à venir. Est-ce qu'il existe, là, je le sais pas. Est-ce qu'il existe un autre recours qui permettra à Simon Hull d'aller en appel de l'appel, là, je le sais pas. Mais, ce que je peux dire, par exemple, surtout, c'est que j'espère que non.
Moi, à sa place, okay. Je pense que je pourrais mon temps puis je ferais
vraiment. Moi, ma gueule avec ça, hein.
Ouais, puis, ben, c'est un moment dont ta gueule, là.
T'sais. Ouais. Fait que là, ben, ce qui va arriver, c'est que, regarde, tout indique que quant au fait de savoir si c'est vraiment un bon gars ou pas, ben, on verra, là. Il va falloir qu'il pense à ça en dedans.
Je pense que l'histoire du bon gars ne tient plus la route à partir du moment où il a récidivé, surtout tu sais, un bon gars, là, ce serait retenu en ayant conscientisé le fait que c'est inacceptable, c'est pas correct ce qu'il a fait, c'est mal, puis ça fait une victime. Mais puis un mauvais gars dit « Ah, là, c'est une erreur », puis s'il pense qu'il sera pas pris, s'il pense qu'il se fera pas pogner, il récidive, ça veut dire que c'est pas sa moralité qui le guide ou qui l'empêche de le faire les autres fois, c'est la peur de se faire prendre. Puis là, ben, il s'est probablement cru à l'abri à Cuba de toute représailles. Fait que, tu sais, je pense que sa moralité, là, est tombée dans la toilette, puis on a flushé, puis on a mis du drano, là. Tu sais, c'est pas sa bonne moralité qui l'empêche de récidiver souvent, c'est la peur de se faire prendre. Et lorsque cette peur-là disparaît, genre dans un voyage à Cuba à l'étranger où on se sent loin de la justice, et c'est à ce moment-là, il récidive, ça veut dire qu'il n'est pas guidé par sa moralité ou sa moralité le guide est défaillante parce que elle le guide à faire des gestes répréhensibles. Si selon lui, il y a peu de risques de se faire prendre.
Ben, il va avoir 12 mois pour penser à ça. Puis l'autre affaire, ben, dans le cas de Vicky, là, c'est la victime de ces gestes-là qui ont été commis après son absolution, pendant qu'il est en probation. Ben, elle, il y a eu le DPCP n'a pas pris en charge le dossier, donc il n'y a pas de poursuite par rapport à ça. Fait que, tu sais, ça a l'air anodin, là, mais ça, ben, je dis pas qu'il y a du monde qui pense que c'est anodin, mais je dis c'est pas anodin. Parce que c'est encore un autre bel exemple que, tu sais, t'es quelqu'un qui a été absous de gestes que t'as commis auxquels t'as plaidé coupable, tu t'en vas à Cuba, tu pognes les fesses d'une fille, elle a fait une plainte, tu reviens. Puis ça va avoir pris quoi? Un an et quelques pouces avant qu'il y ait des conséquences à ça. Et dans le cas de Vicky, elle n'aura pas réparation. Je comprends que là, que Simon Hull aille en prison ou pas, ça n'enlèvera pas le feeling dégueulasse qu'elle a eu de se faire pogner les fesses à Cuba. Mm-hmm. Sauf qu'il reste pareil que, tu sais, il y aura aucune réparation dans le cadre de ce dossier-là. Est-ce à dire? Et là, je comprends que ma question est malhonnête intellectuellement, là, mais est-ce à dire que, veux-tu envoyer le message que n'importe quel douche peut aller à Cuba, pogner le cul d'une fille, revenir, puis il n'y aura jamais de conséquences, même si la fille a fait une plainte. Ben, si c'est ça que tu voulais, c'est pas mal réussi.
Ouais, c'est pas mal ce que les gens vont retenir, puis c'est une autre démonstration. Fait que
good job, Mathieu Poliquin, là, wow, ça, tu dois être l'employé du mois au palais de justice.
On te souhaite une belle carrière.
Ouais.
Une belle carrière, pas de pogneur de fesses, mais d'ingénieur.
Bon, pour le punir, j'y ferais manger de la bouffe de Cité de la Santé.
Oh non, t'as peu des limites, là. Ça serait inhumain, Martin. Oh, Colin, tu viens de me remettre l'image dans la tête. C'est épouvantable. La galette, la demi-galette, ouais, de saumon passée date sèche. OK, peut-être pas passée date. Quand c'est sec, ça pourrit plus.
Ouais, c'est ça. C'est comme l'histoire que je compte souvent. Il y avait un manager de lutte qui mettait son linge dans un coin. T'sais. Il l'avait jamais, puis à un moment donné, il allait fouiller dedans, sortait une paire de bobettes, puis il remettait ça. Ben là, si tu fais là, si c'est là, ça fait combien de temps? Ben, ça fait 3 mois. Ben, c'est ça, c'est plus sale.
C'est épouvantable.
Bon, on semble avoir quelqu'un qui a le piton gaulé dans le chat. Fait que je sais pas c'est quoi ce Poco Locos, mais écoute, on te souhaite bonne chance avec ça.
Ouais. C'est peut-être sur le linge sale qui est plus sale. On se rappelle, récemment, il y avait une crise du côté des passeports au gouvernement fédéral. C'était excessivement long d'obtenir un passeport. Il paraît même que c'était pire au Québec, même si c'est de compétence fédérale, mais il y a des gens, des Québécois qui allaient au Nouveau-Brunswick pour acquérir leur passeport plus rapidement et ça fonctionnait. La crise des passeports serait finie ou en voie d'être réglée. Mais c'est pas sans coût, Colin. 14 millions, c'est ce que ça a coûté en heures supplémentaires dans l'espace de 6 mois. En 6 mois, ça a coûté 14 millions d'heures supplémentaires juste pour reprendre le dessus un peu, revenir un petit peu à jour. Parce qu'en plus d'avoir augmenté ses effectifs, Emploi et Développement Social Canada affirme avoir dépensé, puis c'est ça, ces 14 millions-là, entre juin et décembre 2022. C'était un mauvais moment pour choisir d'aller chercher un passeport, donc c'est ce moment-là que moi j'ai choisi.
Ben quoi, breaking news, oui. Nous sommes 102 déjà. Oh. C'est un record de vitesse d'atteinte de 100 personnes.
Oui, c'est vrai. Hein? 100 personnes live, sans compter. Évidemment, c'est ceux qui sont pas capables de le voir live parce qu'ils sont indisponibles à l'heure du midi, ils sont capables de le revoir après. Puis ça aussi, j'ai l'impression que les écoutes en redifféré de l'Express augmentent aussi. Fait que c'est le fun de voir que ça va bien. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi ça du redifféré?
Redifféré, hein? C'est bizarre. En différé. Colin, hein? Une chance qu'on n'était pas dans l'épreuve de français.
C'est trop bien drôle.
Ça m'aurait peut-être coûté quelques points d'avoir inventé un mot. Mais j'en ai déjà inventé des pires. Fait que, non, c'est bon. En différé, les gens semblent consommer l'Express de façon quotidienne. Puis ça, c'est super encourageant. Ça me donne le goût de continuer d'en faire plus. Et on vous remercie pour ça.
Yes, bienvenue pour ceux que ça concerne, bienvenue dans la différé fusion.
La différée refusion. Mais je mélange ça avec un peu de dyslexie.
Mais qu'est-ce que l'affaire des passeports, par exemple, là, c'est quand même significatif, hein, parce que dans les 2 dernières années, là, on s'entend, là, je pense pas que, ou même 3, là, je pense pas qu'on ait besoin de faire de grand dessin à quelqu'un, là, être agent de voyage, ça devait falloir que tu trouves un petit encas, là, tu sais, parce que ça n'a pas voyagé ben. Mmh. Mais en là, même temps, pris, hey, ça. Ben oui, c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, tout le monde me sacrait son camp.
Ben, tout le monde a été enfermé au Québec puis au Canada dans les dernières années. Fait que les budgets de voyage aussi, ça sont peut-être accumulés aussi, puis on choisit de se rattraper après.
Épiler ma PCU pour pouvoir sacrer son camp.
Ah non, mais ça a pris du temps, ça a pris de l'argent. On parle de 184 000 heures de supplémentaires de travail. Évidemment, c'est pas tous les mêmes fonctionnaires qui ont fait ça. Il a fallu augmenter les effectifs, ce qu'ils ont quand même réussi à faire pendant une pénurie de main d'œuvre, ce qui est quand même louable. Mm-hmm. Mais ben c'est ça, ça a coûté cher. Il y a 3 400 employés qui ont fait des heures supplémentaires pour totaliser 14 millions. Puis là, ben ça a l'air que c'est réglé, là. Ça a l'air qu'on va pouvoir accéder à avoir un passeport dans des délais raisonnables.
Hey, en passant, oui? À partir qu'il y a un lien. Je sais pas où c'est rendu, ça, parce qu'il y a bien du monde qui m'a envoyé des messages, moi. Les gens qui ont obtenu la PCU, mm-hmm. Tu sais, bon, on se rappellera, là, tu sais, que c'est, un, c'était déductible d'impôt, deux, fallait rembourser.
Il y a eu des trop payés.
Je ne sais pas où ça en est, ça. Je ne sais pas où ça en est, tu sais, je veux dire, est-ce que, tu sais, je ne sais pas quel montant ça représente comme compte à recevoir pour le gouvernement, tu sais, c'est combien qui s'attendent de recevoir par rapport à ça versus combien ils ont reçu. Mais je suis quand même un peu curieux.
Ouais, ça va être à suivre. Probablement qu'après la période d'impôt, on va en avoir une idée, j'imagine.
Ouais, sûrement.
Parce qu'il
faut. Mais moi, j'ai du monde qui m'ont écrit pour me dire mes factures de PCU, là, tu sais, là, les montants que je dois, ça a commencé à rentrer, j'ai reçu ça, puis tout. Fait que je me demande. Parce qu'il y a des gens, je peux t'assurer qu'il y a des gens qui vont suivre ça pas mal plus assidûment que nous autres.
il y a du monde qui ont eu des qui en ont reçu trop, qui ont reçu plus de PCU qu'ils auraient dû. Il y en a qui ont reçu, genre, surtout au début, hein, ça a été mis en panique, en catastrophe un peu ce système-là, puis il y en a qui ont reçu 2 000-3 000 $ d'une shot. C'est certain que ça, tu sais, c'est enregistré, hein. C'est pas, ils s'en sont pas rendus compte. C'est pas de l'argent que tu trouves à terre, là. C'est de l'argent qui vient du gouvernement, puis ils savent combien qu'ils t'ont envoyé. Fait que s'ils en ont envoyé trop, il faut payer ça. Mais aussi, si ils vous ont envoyé juste le montant que vous deviez recevoir, ben, sachez qu'il fallait payer de l'impôt là-dessus. Il fallait retenir vous-même une partie de cet argent-là pour pouvoir le rembourser en impôt, pour ne pas être
Techniquement, j'imagine que ces gens-là, ils ont reçu un T4, là. Et t'as reçu une déclaration officielle que t'as reçu 6 000 $ de revenus en fonction de la PCU, puis que c'est un revenu imposable.
Fait qu'attendez un peu, les agences de voyage, attendez un petit peu avant d'aller là-bas avec votre pactole ramassé, si vous en avez un. Peut-être qu'il y en a une partie qui est due au gouvernement, puis s'il vous plaît, vous voulez pas vous ramasser dans la boîte
J'aime Canada, ça, j'aime la suggestion de Do Marakis. Ah oui, ça serait pas pire, ça. Le gouvernement pourrait rembourser. Tu sais, le gouvernement, il aurait pu payer ça, la PCU, en bits.
Ben oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est mieux qu'en bitcoin. C'est plus stable comme valeur. effectivement. Ben c'est ça, il y a eux qui vont faire ça. Comment?
Non, je répondais à Bruno. Il dit t'as-tu reçu un T4 ou un T4? C'est un T4, lui, il dit.
Ah oui,
quatre.
Des fois, ça peut se ressembler un petit peu. Ma soeur a reçu sa facture de PCU, je me souviens plus du montant. De toute façon, ça ne nous regarde pas, mais c'est intéressant de savoir qu'il y en a qui l'ont reçu déjà.
Moi, je vais te le dire, Frank, là, c'était pas un sujet dont je voulais parler, mais moi, j'étais convaincu que ça tomberait à l'eau, ça. J'étais convaincu que l'Agence de revenus du Canada n'enverrait pas ces factures-là. Je me rappelle même de l'avoir dit à toi dans un show. Il ne se passera rien avec ça. Parce que, tu sais, l'infrastructure requise pour collecter l'argent va probablement coûter plus cher que ce que ça représente. Tu payes, tu sais, tu gardes, là, tu payes du monde 70 000 par année, tu payes des départements du monde à 70 000 par année pour collecter 2 000 piastres, là. Faut que t'en collectes en tabouret.
Faut que t'en collectes pas mal. Mais ne serait-ce que par le principe, j'ai l'impression que ça va aller jusqu'au bout. CC Suburban nous dit que le gouvernement a 2 ans pour faire ça, par contre, et ça tire à sa fin. Donc,
ouais, mais c'est ça.
Mais ça serait pas la première fois où les délais sont dépassés dans de la gestion publique. Ouais, mais ouais. Bon, Boston Pat, il dit ta nouvelle motoneige appartient au gouvernement.
C'est bon. Hey, c'est bon ce qui est doux.
J'ai un ami qui a eu à rembourser déjà des montants de la PCU. Donc, il y en a qui ont déjà reçu un petit message disant hey, tu nous dois tant. Fait que, ben, soyez vigilants, ceux qui ont reçu la PCU, puis essayez de pas trop vous ramasser dans la chenoute avec le ministère du Revenu. Ça n'a pas l'air le fun. Puis je pense que ça peut finir, j'imagine, en saisie de salaire, ces affaires-là. Fait que faut pas trop traîner avec ça. Ouais. J'ai hâte de voir des lives de conspi notoires qui vont brailler de devoir rembourser des PCU en plus de leur ticket de liberté. C'est Pantagruel qui nous dit ça. Effectivement, il y en a qui, si on cumule des amendes pour les infractions aux règles sanitaires. En plus de ça, j'ai l'impression que ça va. Oh, Colin, un peu. J'ai un appel de la Californie. 1-666-935.
666?
Non, 661. C'est pas Satan. Pas cette fois-ci. Si c'était Satan, c'est bien que j'aurais pris l'appel. Mais... Californie, je pense pas avoir d'amis là. Ça a l'air, y en a-tu des maudits appels de même? Ça m'a fait rire dans, c'est vrai, je vais juste faire une petite parenthèse que, dans l'entrevue que tu aurais diffusée, où on affrontait, on va dire comme ça, Stéphane Blais, le président de la Fondation de la liberté des peuples de l'Archange Saint-Michel. Alors, juste après qu'on l'ait agacé un petit peu avec sa conversation avec le président de la Suède, genre, t'as reçu un appel du Danemark.
Écoute, je l'ai montré en plus, c'était pas une joke.
Non, c'est ça, puis c'était tellement...
C'était pas, je vous jure, c'était pas stagé.
Non, c'était là, fortuit, mais maudit. Le timing était drôle en maudit.
Ouais, mais dans ce temps-là, je recevais, quand on faisait des trucs en live, je recevais comme 50 kawabs pendant la veillée. Il y avait des conspis qui m'envoyaient des kawabs.
Les
messages. Là, t'as pizza, hey, c'est le livreur de pizza, je suis en bas. Bon, c'est un kawab, ça clique. Mais je répondais même plus à la fin. Hey, mais Frank, ça me tente de rester dans l'argent parce que j'ai une quickie pour toi. C'est quoi une fraude du président?
Je connais le choix du président.
Non, c'est pas tout à fait la même affaire. C'est, en fait, là, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est. Une fraude du président, c'est une tactique utilisée par les fraudeurs d'hameçonnage, en fait. C'est que y a quelqu'un qui met la main sur l'adresse de courriel d'un président de compagnie. Là, évidemment que là, stratégiquement parlant, on essaye de pogner. C'est pas le Mr. Puff du vieux port de Montréal. Là, des grandes entreprises. Puis, je sais pas pourquoi j'ai dit Mr. Puff, je vous pensais à ça. Mais ce qu'ils font, c'est que, évidemment, en obtenant cette adresse-là, puis en utilisant des alliances, puis tout ça, ils viennent à bout de rejoindre des personnes qui travaillent dans des entreprises au niveau de la comptabilité, des finances et tout ça. Puis là, ben, ils investissent ces gens-là d'une mission importante de laquelle ils ne doivent pas parler. C'est ton président qui te demande ça puis tout le kit. Puis là, ben, tu vas faire des virements en Chine ou en envoie 200 000 piastres à tel numéro de transit.
Des gros montants.
Fait que il y a une compagnie qui s'appelle TYT. Vous avez peut-être déjà vu ça c'est une compagnie de transport. Vous avez peut-être
déjà vu ça.
Bon ouais, c'est ça. Vous avez peut-être déjà vu ça sur la route, le groupe TYT.
Okay. Ou sur YouTube, parce qu'il y a, il y a une chaîne qui s'appelle The Young Turks. C'est pas la même chose.
Non, pas en tout. C'est une entreprise de Drummondville, en fait, qui intente une poursuite contre Desjardins de 1,5 million de dollars et intérêts pour inaction et négligence. Ce qui est arrivé, c'est que le groupe TYT a subi ce qu'on appelle une fraude du président. Entre le 8 et le 15 juin 2020, pour un montant total de 2,3 millions en 5 transferts de fonds internationaux vers Hong Kong et la Chine à partir de ses comptes Desjardins. Fait que le stratagème est exactement comme je te l'ai expliqué. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le président de cette compagnie-là. Le président en question, il s'appelle Patrick Turcotte. Puis, il communique avec quelqu'un aux finances, puis il dit là, tu vas virer, whatever. Tout ça vient de la marge de crédit de l'entreprise, là. Ça vient pas d'un compte bancaire comme tel. Et les fonds commencent à s'envoler. Ça s'est passé, comme je te disais, entre le 8 et le 15. C'est 5 virements qui se sont déroulés, qui ont été faits.
Mais quand, puis, comment ça fait que le service des finances, c'est pas d'authentifier, d'être sûr que tu parles à la bonne personne? Je sais pas.
Si moi, j'avais la réponse à ça, je parlerais pas de ce sujet-là, parce que c'est un abus de confiance. Elle pense qu'elle parle au président de la compagnie.
Hey, moi, je serais stressé avant de peser sur le piton pour 2 millions. Là.
Non, mais c'est pas une fois 2 millions, c'est 100 000 ici. Okay, c'est
100 000, mais je serais stressé pareil.
Ben, Frank, quand tu travailles aux finances, là, faire des virements de 200 000 piastres pour une compagnie qui a 200 employés, là, je pense pas que ce soit quelque chose que tu fais jamais.
C'est monnaie courante, oui, je comprends.
Ben oui, c'est ça. T'sais, je me rappelle quand je travaillais pour quand je travaillais en informatique, t'sais, c'est déjà arrivé là, que le contrôleur financier dise à... je te donne un exemple, fallait que je commande moi des articles que je revendais, tu sais, puis il y avait une facture pending, mettons, qui tombait à 30 jours dans 3 jours, c'est 225 000 piastres, qui envoyait l'argent. Là,
oui, je comprends. C'est parce que je suis pas dans le milieu
de la business. C'est pas, on n'est pas dans le domaine du personnel, là. C'est une compagnie, puis ça roule, puis ils ont des trucks, puis ça y va, là. Fait que, puis, en fait, ce que Desjardins, la niaiserie dont Desjardins est accusé, c'est que même après que le client, et non pas l'institution financière, se soit rendu compte de ça, ils ont refusé de soutenir le groupe TYT sur et ont nié leur responsabilité à l'égard de la fraude. Puis là, ça s'est allé jusqu'à menacer la survie de l'entreprise. Là. C'est une grosse compagnie, mais c'est 225 employés. Tu peux pas faire disparaître 2,3 millions même en 7-8 jours. Fait que là, de plus, Desjardins savait que la sécurité des renseignements de TYT avait été compromise à la suite du vol massif de données de 4,2 millions de membres révélés en juin 2019. Tu te rappelles de ça?
Oui,
ça avait fait la manchette. Bon, ben c'est
ça que ça sert.
Ouais, mais ça, puis là, qui plus est, cette compagnie-là faisait partie de la liste des gens dont les informations avaient été dérobées, Frank. Tu sais, là, je veux dire, il y a une cause à effet.
Ouais, ça rend déjà bien responsable, là, pas mal, là, j'imagine.
Bon, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme ça que ça a commencé. Série de transferts de fonds à coût de centaines de milliers de dollars, sans que le personnel de Desjardins, qui devait pourtant suivre de près les finances de l'entreprise, fasse de vérification sur la légitimité des transactions. Écoute bien ça, Frank. Moi, là, j'ai déjà reçu un coup de téléphone à 2h du matin d'une institution financière, dont je vais taire le nom, qui me dit, « Monsieur Godette, est-ce que vous êtes présentement à la colle? » Non, je suis dans mon lit. Bon, ben écoutez, on veut juste vous informer qu'il y a eu une fraude, probablement un clonage de votre carte débit, pas un transfert bancaire, là. Ma carte de débit aurait été clonée. Et comment ils se sont rendus compte de ça? Ben, j'ai jamais fait d'achat à la colle à 2h du matin, right? Fait que si ça marche pour moi, comment ça peut ne pas marcher pour une entreprise dont il a déjà identifié qu'elle était à risque parce qu'il y a eu des données qui ont été volées de la propre admission de l'institution financière et qu'en plus, il était supposé d'être sur une watchlist pour éviter ça et que, but wait, there's more. Ils n'ont jamais fait de virement en Asie ever. Toutes les transactions bancaires qu'ils ont faites ou à peu près se sont passées au Canada.
C'est un petit peu louche, hein? Hey, dans les commentaires, c'est intéressant, les manigances qui nous disent la fraude au président est une fraude inventée par un Français qui a réussi à se faire passer pour le ministre de la Défense de la France. Il a détourné des centaines de millions de dollars avec cette fraude. Il est aujourd'hui en Israël qui ne l'extrade pas. Et ben il continue, oui. Ça a l'air. Puis il y a un documentaire sur Netflix qui en parle. Merci beaucoup, c'est très pertinent comme information.
Les deux avocates qui mènent cette poursuite-là, en plus, dans leur argumentaire, tu sais, il est mentionné, en tout cas dans l'article que j'ai, que à la fin 2019, Desjardins avait créé un bureau de sécurité afin de mieux protéger ses clients. Toutefois, ce sont 5 virements suspects qui ont pu être réalisés en une semaine sans que son personnel en informe le vrai président. Patrick Turcotte. Fait que, bottom line, vérifiez quand que vous recevez des mails qui vous semblent incongrus. Prenez le téléphone, parlez de vive voix à quelqu'un. Parce que là, je lance pas de cœur à personne. Là, c'est des fois dans le feu de l'action. Mais si votre boss vous envoie un email disant tu peux-tu envoyer 50 000 piastres à telle place, appelez les dons.
Ouais, appelez les dons. Surtout si c'est genre en Chine, une place que vous n'êtes pas habitué de faire des virements. Mais c'est fou la comparaison que tu fais. Là. Je veux dire, toi, tu as été cloné
Il y a eu un achat. Ça m'est arrivé plus qu'une fois, by the way.
C'est pas arrivé juste une fois. Là. Ah, moi, ça m'est arrivé une fois aussi. Et puis, tu sais, je m'en allais aux îles de la Madeleine avec un gros budget de vacances, genre de quelques centaines de dollars. J'en avais à peine assez pour survivre là-bas en comptant que j'allais manger ma pêche, là, tu sais. Puis, je passe au dépanneur le matin du voyage, puis je me fais vider là. J'arrive au bateau, au traversier, puis une scène. Puis, mais ça n'a pas été long, tu sais, Desjardins m'a remboursé, mais moi, je suis encore fessé du fait que une transaction à la colle à 2h du matin, et ça, c'est louche, il est pas habitué de faire ça. Il allume là-dessus, mais des millions en Asie, alors qu'il n'y avait jamais eu de transaction là. Ça passe. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de laxisme de la part de quelqu'un, on dirait, là-dedans, dans cette histoire-là.
Clairement. Ben, tu je te dis, parce que, regarde, mon père a travaillé dans les institutions financières toute sa vie, ma mère a été là longtemps, puis moi aussi, j'ai travaillé là. C'est qu'à un moment donné, puis là, je te parle de Desjardins, là, bâchez-moi pas les Desjardins lovers, là. On reste calme. C'est Alphonse qui a créé, puis la coopérative d'épargne, c'est fantastique, mais on reste calme. Fait que, il fut un temps où est-ce que la prétention du marché financier du Québec, c'était de dire que, tu sais, Desjardins, c'était pour le peuple, par le peuple, Marilyn Marillé, alors que les institutions financières traitaient ses clients comme des clients, alors qu'une caisse populaire était un membre. On n'utilise plus le terme caisse populaire, c'est Desjardins, groupe Desjardins maintenant. Mais, tu sais, moi, ce que ça me donne comme impression, c'est que, comment je te dirais ça? Il fut une époque où est-ce que je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'outils qui étaient mis en place pour protéger les épargnants. Je parle de Desjardins, mais je les inclus toutes. Des algorithmes qui vérifiaient peut-être justement la pertinence des transactions. Puis ça a été comme déployé massivement. Tandis que, on a continué de traiter les entreprises, on veut traiter les entreprises comme des clients. Tu sais, un représentant à caisse. Avant, tu n'avais pas ça là, chez Desjardins. Tu n'avais pas des reps, là. Tu avais ça à Banque nationale, tu avais ça dans les banques, mais chez Desjardins. En tout cas, moi, quand j'étais là, je sais que ça a changé il y a très longtemps. Là,
oui.
Mais, tu sais, fait que, est-ce que, ben, dans le fond, ça va être le fardeau de groupe TYT de faire la démonstration qu'il y a eu effectivement négligence, puis de demander réparation. Sauf que, tu sais, il en demeure pas moins, puis j'imagine que ça va être ça, la défense de Desjardins. Tu as la responsabilité aussi comme entreprise de ne pas envoyer 200 000 piastres à n'importe qui. Là, fait que, regarde, ça va être intéressant.
Oui, peut-être que ce sera une responsabilité partagée. Ça va être intéressant de suivre ça.
Une poire en deux. Là, eux autres vont faire la démonstration probablement que Desjardins aurait pu éviter ça. Puis la défense va faire la démonstration que le client aurait pu éviter ça.
C'est ça, on va couper la poire en deux, puis on va couper l'express en deux parce qu'on va aller faire une petite pause, puis on revient tout de suite.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantie.
On parle beaucoup des infirmières, puis c'est vrai que c'est dur ce qu'ils vivent, mais les enseignants aussi, ils l'ont pas facile ces temps-ci. Ça s'est tellement aggravé dans les écoles que les profs sont obligés, pas les profs suppléants, mais les profs, tu sais, permanents, sont obligés de faire des heures supplémentaires, faire de la suppléance dans d'autres classes que la leur. Comment ils font ça? Ben là, c'est sûr qu'ils font pas. OK, bon, ben, faites ce travail-là, puis j'en viens d'une minute, là. Ils courent, ils vont à l'autre classe. OK, là, on va faire des profs. Non, c'est pas comme ça. Mais chaque prof a des périodes libres, entre guillemets, c'est-à-dire pendant que les élèves vont, je sais pas, au cours d'art, de musique, d'éducation physique. Mais c'est pas une période qui est... Elle est libre d'élèves, mais elle est pas libre de travail. Ils profitent de ces moments-là pour faire de la correction, pour faire de la planification, travailler sur le plan de cours. Tu sais, je connais pas le métier de fond en comble, mais c'est pas bon, sont en éducation physique, prendre ça relax. Non, ils travaillent. Et ben là, ils peuvent plus faire ce travail-là pendant ces périodes-là. Il faut, dès qu'ils ont une période libre, il faut qu'ils aillent faire de la suppléance dans une autre classe. Ça arrive de plus en plus souvent. On appelle ça le remplacement d'urgence ou le dépannage obligatoire. C'est ça. C'est quand, si un enseignant, mettons, dans une classe, est pas là pour la journée, il est malade ou peu importe, il faut que ce soit les autres profs de la même école qui vont se relayer pour que cette classe-là ait un enseignant. Donc, dans la même journée, dans une classe d'école primaire, si l'enseignant est absent, les élèves vont voir 5 profs passer dans leur classe dans la même journée. Donc, c'est ça. Pendant que ils sont en anglais, en éducation physique, ils se dépêchent, ils vont faire cette période-là. Mais le problème, c'est que le travail qu'ils font pas pendant que les élèves sont en éducation physique, dans un autre cours, dans une autre classe, il faut qu'ils le fassent à la maison, il faut que ça se fasse quand même. Il faut corriger, il faut préparer les cours. Donc, ils se ramassent avec du temps supplémentaire à faire le soir ou la fin de semaine, soit chez eux ou à l'école. Mais c'est une charge de travail de plus. Là. Puis, c'est un phénomène qui existait déjà, mais ça s'est pas mal aggravé. Par exemple, dans l'article du journal de Montréal que j'ai sous les yeux. On dit au centre de service scolaire Marie-Victorin à Montérégie, en 2018-2019, on a eu recours au remplacement d'urgence pour environ 190 périodes. 2018-2019. 4 ans plus tard, c'est, et Colin, 13 776 périodes de remplacement d'urgence. On parle d'une augmentation de 7250%. Ça commence à devenir alarmant. Puis vous allez me dire, ouais, ils sont payés pour ça. Oui, ils sont payés, mais à un moment donné, c'est parce que...
C'est pas juste à propos de payer, là.
Ben non, c'est ça.
À propos d'être capable de fournir, puis de pas tomber malade, puis en burn-out, puis en surcharge. Puis...
C'est ça, d'accomplir la charge de travail, puis d'avoir une espèce de qualité de vie, là. Et des profs que, tu sais... Bon, il y en a que j'imagine qu'ils sont capables de le faire puis que ça leur convient. Ils font plus d'argent, ils vont là-dessus. Mais on dit que la plupart des enseignants préféreraient se passer de cet argent-là supplémentaire et avoir le temps de faire leur job comme il faut.
Voilà.
Puis c'est-tu hier ou avant-hier qu'on relatait les résultats des épreuves de français? On apprenait que...
Lundi,
parles de ça. On apprenait que 50% des élèves échoue. Ça, c'est une moyenne, là. Tu sais, il y a des endroits où c'est mieux. Je me rappelle qu'aux Îles-de-la-Madeleine, c'était mieux, puis à Montréal, c'était pire. Mais grosso modo, là, c'est presque un élève sur deux qui échoue l'épreuve de français. Colin, ça se peut-tu que les profs n'aient pas le temps de faire leur job comme il faut? Ça pourrait ressembler à ça. Puis, évidemment, bon, OK, ça donne plus d'argent de faire ça, mais si une personne refuse de faire des remplacements d'urgence, elle va subir une coupure de traitement. Ça veut dire une baisse de salaire. Une baisse de salaire. Puis là, les profs sont un peu dans une espèce de dilemme, c'est-à-dire de soit de tout faire les heures qu'on leur demande de faire, mais en sacrifiant un peu la qualité du service aux élèves, ou de se priver de salaire pour continuer à faire leur travail tout en ayant la conscience tranquille, là, c'est-à-dire de faire sa job comme il faut, tu sais, puis j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on peut bâcler, l'enseignement, tu sais. En tout cas, c'est peut-être ça qu'on a fait récemment, puis là, bon, on voit les résultats, comme j'ai relaté lundi.
Ben, tu sais, Frank, tu parles de ça, là, je veux pas te couper, mais tu sais, t'as beau que dans le contexte de la pandémie puis tout ça, tu sais, oui, le secteur de la santé, pour raisons évidentes, là, puis on en a parlé en masse, puis on n'en pense pas moins aujourd'hui, mais tabouin, les profs, ils passent dans le mythe, là, depuis quelque temps, je trouve. Moi, là, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais entre 20 puis 24 ans. J'avais une blonde, puis elle étudiait en enseignement. Puis elle est enseignante depuis des années maintenant. Puis tu sais, elle, là, pour cette fille-là, c'était vraiment un appel, là. OK? Tu sais, la noblesse d'être enseignant, là, je dis pas que ça existe plus, là, ne me mettez pas des mots dans la bouche, mais à cette époque-là, tu sais, pour elle, à tout le moins, c'était vraiment une vocation pour elle. C'est ce qu'elle voulait faire, c'est ce dont elle se sentait investie. Mm-hmm. Puis elle le fait depuis plusieurs années, puis elle est très, je sais pas comment je vais dire ça, elle est très engagée, tu sais. Pour elle, là, tu sais, justement, tout ce dossier-là, la qualité de vie des enseignants, les ressources qu'ils ont pour travailler, tout ça, tu sais, c'est quelque chose sur lequel. Mais là, aujourd'hui, là, je regarde des commentaires dans le chat, là. Tu sais, ma sœur est enseignante, puis ça arrive qu'elle fait 20 heures semaine de plus, puis elle n'est pas payée pour ça, tout le kit. Je n'entends que ça maintenant. Littéralement, là. Puis moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter parce que moi, là, en tout cas, d'où je viens, quand j'étais petit, les enseignants là, dans mon village, c'était des rock stars, là. C'était des gens tabouins que c'était donc important, tu sais, nos professeurs à l'école Notre-Dame à Béarn, tu sais, Jeannine Bureau, puis Brigitte Audet, puis tu sais, c'était du monde important dans notre communauté. À Star, c'est une caricature ce que je m'apprête à dire là, mais on dirait que les gens qui sont enseignants dans mon cercle social, c'est du monde brûlé.
Ouais.
En permanence.
Oui.
Les histoires qu'ils me racontent, il y en a de moins en moins des trucs genre, hey, il y a un kid dans ma classe, patati patata. Non, c'est pas ça. C'est que, puis je les comprends, tout ce dont ils me font part quand on parle de, pis toi, comment ça se passe, la job, pis toute la kit. Oh! Puis je les blasse pas, là, quand je dis ça, je comprends, là. Je suis pas en train de dire, là, ah, ben là, tu finis de chialer. Non! Parce que visiblement, ils ne sont pas entendus. Puis Roberge, là, on te le dire, là, il doit être dans le jeu d'or, dans le bullseye d'une coupe de jeu d'or dans une salle de prof depuis un méchant bout. Là.
C'est très possible. Ben, écoute, c'est attends de voir la solution qu'ils ont trouvée.
Ouais, je la sais. ça s'améliorera pas.
Les centres de services scolaires réclament au gouvernement Legault la possibilité de mettre 2 élèves de plus par classe dans les milieux où ça serait nécessaire. On a déjà parlé de la surpopulation des classes. Ça fait dans 10 ans qu'on parle de ça. Tu sais, c'est rendu à 30 élèves. Là, je sais plus c'est rendu combien, mais c'était déjà surpeuplé il y a 10 ans. C'est là, ben, là, on va en mettre plus. Sauf que ça augmente la charge de travail du prof quand même. Et ça fait moins de temps qui va être attribué à chaque élève, tu sais, nécessairement. C'est juste logique. Là. Donc, les enseignants qui auraient plus d'élèves devant eux auraient, par exemple, droit à une prime spéciale et davantage de services en classe. Ça, c'est ce que dit Dominique Robert, qui est président et directeur général adjoint de la Fédération. Sauf que le problème, c'est que ben la prime spéciale, ça n'a pas l'air à suffire, parce qu'ils disent, là, c'est pas de l'argent qu'on veut, là, on veut une vie, puis on veut pouvoir faire notre travail en toute bonne conscience professionnelle, c'est-à-dire d'offrir le service comme il faut aux élèves. Fait que la prime spéciale, j'ai pas l'impression que c'est un incitatif suffisant. Bon, ce qu'on dit, c'est que d'ajouter 2 élèves par groupe, ça permettrait de récupérer virtuellement, on s'entend, là, 3750 enseignants. Puis aussi, ben, mais les centres de services, eux autres, veulent que Québec établisse des... En fait, augmente les salaires pour commencer, tu sais, régler le problème à la source, là, essayer de freiner l'exode du personnel scolaire pour que le monde reste dans les écoles puis reste à leur poste. Puis évidemment, du côté du syndicat des enseignants, ben là, c'est évidemment, on fait une levée de bouclier. On dit 2 élèves par classe, ça peut pas être une solution. Évidemment, ça, c'est ce que dit José Scalabrini, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Elle dit, en quoi une telle mesure vient répondre à notre besoin de revoir la composition des classes? Bravo pour la valorisation de la profession. Évidemment, elle dit ça dans un esprit d'ironie. Les services supplémentaires pour les élèves en difficulté sont déjà pas au rendez-vous dans les classes régulières. C'est vrai, tu sais, pour ceux qui ont besoin d'orthopédagogues ou de pour des cas particuliers, des difficultés d'apprentissage. C'est déjà extrêmement difficile d'avoir ces services-là. Alors, je sais pas où est-ce qu'on prend ça du côté du centre de services scolaires, de dire, ben là, on va avoir deux élèves de plus par classe, mais on va compenser avec une prime, puis ils vont avoir plus de services spéciaux. Colin, ils ont déjà pas. Je sais pas où c'est qu'ils vont les prendre. Je sais pas c'est quoi leur logique. Pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, qui ont besoin de différents services, soit en orthopédagogie ou autre. Fait que je sais pas où ils pensent aller chercher ça. Puis l'autre problème dont je parlais tantôt pour la suppléance obligatoire, en plus d'avoir 2 élèves de plus par classe, en plus, ça a l'air compliqué d'avoir une job de suppléant. Les étapes bureaucratiques pour se rendre là, c'est fou. Là. On compare ça dans l'article. En fait, c'est quelqu'un qui l'a vécu qui compare ça aux 12 travaux d'Astérix. Là. c'est extrêmement long, complexe et lourd. Il y a une personne qui est, bon, on l'appelle Léonie, parce que les profs n'osent pas critiquer leur commission scolaire sous peine d'être intimidé ou de se faire congédier.
C'est la dictature,
ou de...
Frank, dictature.
Ben, con. J'irais pas jusque-là, mais.
Je veux pas mélanger les dossiers.
Mais non, c'est ça. Mais ils osent pas s'exprimer parce qu'ils veulent pas avoir de représailles. Leur job est déjà assez difficile comme ça. Mais une prof qui s'exprime sous le nom, le pseudonyme de Léonie, dit: j'ai lâché prise à partir du moment où je savais plus où cliquer et où envoyer quoi. Cette personne-là est une médiatrice culturelle qui a un baccalauréat et elle a de l'expérience avec les jeunes. Elle serait disponible pour faire des remplacements ponctuels. C'est-à-dire, il manque quelqu'un, appelle-moi, j'y vais. Mais elle se perd dans les dédales du gouvernement, de l'administration. Ça fait 3 mois qu'elle essaie de naviguer dans le processus d'embauche. Puis elle n'en sort pas, là. C'est comme dans les 12 travaux d'Astérix, là. Une fois qu'elle a rempli une étape, ben il faut qu'elle continue ailleurs. Il y en a une autre qui a presque terminé son baccalauréat en enseignement. Donc, elle étudie en enseignement. T'sais, elle est compétente, là. T'sais, elle a presque fini son bac. Elle est compétente pour faire de la suppléance, là. Surtout que ces temps-ci, des fois, on voit des gens qui obtiennent des postes de suppléants qui n'ont aucune espèce de formation dans ce domaine-là. C'est juste qu'on est mal pris, on prend ça, ben, il est pas payé, il s'exprime bien, il comprend, puis mais c'est pas nécessairement...
C'était qui, Frank? C'était qui? C'est-tu QS ou le Parti québécois qui avait, dans la dernière campagne électorale, qui disait les fonctionnaires dont on couperait les postes, on pourrait les envoyer faire du remplacement dans les écoles?
Ouais, ben en tout cas, faudrait pas qu'ils passent par le même processus que des gens compétents, parce qu'ils s'en vont pas.
C'est là que je m'en allais. Oui, OK, on va éclairer, je dis n'importe quoi, là, on va éclairer 5000 fonctionnaires, aller faire du remplacement dans les écoles. Oui, mais là, t'as peu, là, c'est parce que...
Il y a une démarche, là.
Oh, ouais. C'est lourd, c'est lourd. Il y a des formulaires, puis là, veuillez amener le formulaire B2 au local A13, tu sais.
C'est extrêmement lourd. Écoute, cette personne-là qui est en voie de compléter son bac en enseignement, ça lui a pris 4 mois entre l'envoi de sa candidature et sa première journée de suppléance. Colin, 4 mois, c'est comme une bonne partie de l'année que scolaire, là.
Excuse-moi de te couper parce qu'il faut que rigueur calisse. C'est Éric Duhaime qui avait dit de faire ça.
Hey, à un moment donné, ça va être... C'est-tu lire? Parles-tu français? Oh, ouais, il est allé en classe.
Es-tu vivant?
Es-tu vivant? Est-ce que tu vis? Oui. Est-ce que tu es capable de pointer un tableau? Bon, tu y vas. Mais c'est ça, ça a pris 4 mois, là, puis tu sais, c'est sûr qu'il faut vérifier toutes sortes de choses. On vérifie les diplômes, la compétence, les antécédents judiciaires. Mais il y a des étapes dont on pourrait peut-être se passer. Ouais, on pourrait peut-être exercer une chose qui s'appelle... Je sais que c'est pas à mode, c'est à plus court, là, à notre époque, là, mais on pourrait quand même essayer d'exercer une chose qui s'appelle le jugement, quand on a quelqu'un de compétent entre les mains, là, tu sais. Puis pourquoi je dis ça? Ben, Colin, c'est parce que... Il demande évidemment beaucoup d'informations. Mais là, ça va jusqu'aux notes de l'école secondaire, là. On veut voir ton diplôme secondaire, on veut voir quelle note que tu as eu au secondaire. Hey, on s'entend-tu qu'entre le secondaire puis le bac, il s'en est passé des choses, là? Mais on veut savoir ça. Puis une autre prof avec un nom fictif, on l'appelle Stéphanie dans l'article du journal. Elle a plus de 30 ans d'expérience comme enseignante qualifiée dans des écoles de la région de la capitale nationale. OK, c'est une prof de Québec, ça fait 30 ans. OK, elle a 60 ans, elle a enseigné pendant 30 ans, elle est allée à la retraite, puis là, elle veut revenir donner un coup de main comme retraitée, là. Elle dit, hey, moi, j'ai enseigné 30 ans, là, c'est mon métier, j'ai fait ça toute ma vie. Puis là, je vois que c'est difficile. Je viendrais faire une coupe d'heure. Ouais, mais on veut voir tes notes de ton bulletin secondaire. Elle a 30 ans d'expérience. Ben,
c'est tellement, Frank, un exemple probant de l'hostie de bureaucratie puis d'affaires qui n'ont pas de maudit bon sens, de red tape. Puis je comprends qu'on vit dans une société où il y a des règles puis des façons de fonctionner. Puis si on fait pas ça, c'est le chaos. Mais là, c'est dans les classes que c'est le chaos. C'est dans la salle des profs que c'est le chaos. Tu sais, on n'est pas capable, comme ça me donne souvent l'impression que comme société, au Québec particulièrement, je peux pas parler pour les autres, je vis pas là, mais que, tu sais, On s'auto-tire dans le genou sur tellement d'affaires. Les problèmes les plus complexes sont souvent les solutions les moins compliquées. Mais non, puis là, il y a le red tape, puis il y a la façon de faire les choses, les procédures, toutes ces affaires-là. Il existe dans l'appareil gouvernemental québécois, malgré le fait qu'on soit une petite province, tu sais, si on se compare avec plein d'autres États, puis d'autres, il n'existe aucune flexibilité dans l'appareil gouvernemental québécois. Tu vas me dire, ouais, Martin, c'est pareil partout. M'en calisse!
C'est pas pareil
partout. Je vis pas là!
C'est pas pareil partout, je vis ici. C'est pas pareil. On tu sais, c'est non seulement il y a la lourdeur de la fonction, tu sais, de l'État qui est énorme, puis surtout si on se compare à des gestions ailleurs, par exemple aux États-Unis où il y a beaucoup moins de fonctionnaires, où c'est beaucoup moins lourd, mais je comprends que ça marche pas de la même façon. Mais des fois, ça semble un peu vétus, là, les façons de fonctionner, pis on dirait qu'on veut pas les revoir. Je comprends qu'on vérifie les compétences et les antécédents judiciaires, on veut pas avoir des Simon Hull dans les classes, OK? On s'entend, là. Mais gars, ce qu'on demande, là, dans la plupart des commissions scolaires pour un prof... suppléant, OK, pour pallier au manque épouvantable qui force des profs à temps plein, je le rappelle, à quitter leur classe pour aller aller dans la même école faire de la suppléance obligatoire. Ben, est-ce qu'on leur demande, bon, un CV, OK, c'est la base. Certificat de naissance, es-tu né, es-tu sûr d'être né? Bon, on veut savoir s'ils sont nés ici, puis je sais pas c'est quoi l'intérêt de ça, mais bon, j'imagine que ça a une importance. Brevet d'enseignement, s'il y a lieu... OK. Des diplômes, mais là, les notes de relevé universitaire, je peux comprendre. Collégial, moi, hein. Mais là, du secondaire, là, attends un peu.
Franchement, tu sais.
Tu sais, c'est... Je comprends, là, qu'on vérifie, là, on vérifie bien, mais là, les notes du secondaire, pour vrai, là, c'est peut-être pas la pire affaire, là, c'est peut-être pas ça qui empêche les profs, mais je veux dire, ça montre qu'il y a une étape de trop, ça montre que c'est trop lourd, puis celle-là, ça lui a pris 4 mois, être compétente, ça lui a pris 4 mois avant de se rendre dans une classe pour essayer de donner un coup de main à ses consœurs, ses confrères enseignants, tu sais, pour puis aussi prendre de l'expérience, c'est extrêmement compliqué, puis le problème aussi,
ça donne l'impression de chercher des façons pour que ça marche pas.
Ben ouais.
Au lieu du contraire, là, tu sais. Écoute, t'es en pénurie, là, ça va pas bien. Tu sais, là, pis là, j'en vois, j'en entends dans ma tête. Ouais, mais regarde, Mark, c'est pareil comme quand il exigeait que le monde se fasse vacciner pour pouvoir travailler dans le secteur de la santé. Non, c'est pas pareil pantoute, là.
Ben non.
C'est pas pareil pantoute, là.
Pas de sécurité publique là-dedans. Là,
Pierre qui mentionne, Martin, on m'a demandé mes relevés de notes de mon bac en droit récemment, une grosse firme établie privée. Ben oui, mais ça, je comprends, là.
Mais ils t'ont pas demandé, tu sais, tes notes de diplôme d'études secondaires.
Ben non, tu sais, ils t'ont pas demandé ton bulletin au lycée, là, Pierre, là, tu sais, je veux dire, c'est pour moi, c'est pas exactement la même chose, là. Écoute, je me tire d'un genou pour pas que ça marche. Puis, pendant ce temps-là, ben, la solution qu'ils ont trouvée pour régler la pénurie de professeurs, c'est de donner plus d'étudiants dans les classes. Sacrement.
Non, c'est ça. Puis, les profs ont souvent des formations. D'ailleurs, ils sont, si je me trompe pas, obligés par la loi de suivre des... les enseignants sont obligés par la loi de suivre 30 heures de formation continue par 2 ans. OK? À tous les 2 ans, il faut qu'il y ait 30 heures de formation. Mais le problème, c'est que les formations sont annulées. Pendant que les commissions scolaires demandent à voir les travaux de plasticine dans la maternelle des profs qui désirent se joindre, mettre l'épaule à la roue et aller travailler dans le milieu de l'enseignement... Ben pendant ça, on annule des formations pour des enseignants. Puis il y a une prof qui témoigne de ça. On annule à peu près toutes les formations. D'ailleurs, il y en a eu que pendant la commission scolaire de Montréal a annulé toutes les formations entre le 7 décembre 2022 et le 30 avril 2023. Fait que je pense pas que ce soit la pandémie qui oblige ça, mais tu sais, c'est le problème, c'est qu'on manque de profs, mais on va quand même annuler les formations pendant que d'autres profs sont prêts à prendre la relève et on les laisse niaiser dans les dédales, dans le labyrinthe de l'État. Pour rajouter encore à ça, quand les profs réussissent à obtenir une formation, ben on les culpabilise. On dit, ah ben là, OK, vas-y à ta formation. Mais il va falloir que tes collègues mettent les bouchées doubles, hein, pour te remplacer. Puis tu sais que tu rajoutes du poids d'une charge de travail sur tes collègues qui vont devoir aller faire de la suppléance dans ta classe. Parce que, ben oui, on en a d'autres qui voudraient, là, mais on attend de voir son dessin de peinture à doigts en matériel maternel de deuxième cycle. Fait que ce sont tes collègues qui vont en payer le prix. Mais vas-y à ta formation. On leur fait subir ça, de la pression supplémentaire pour les faire culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'elles veulent se conformer à la loi d'avoir leur formation, leurs 30 heures, puis là, on est moins de 30 heures, là, de formation à tous les deux ans. Fait que, Colin, regarde, c'est sûr que c'est un commentaire de profane. Je suis pas là-dedans, je connais rien, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des solutions plus évidentes et plus productives que de rajouter des élèves dans les classes pour augmenter la charge de travail des profs qui sont déjà au bout du rouleau.
Moi, si le fait d'alléger un petit peu les façons de déterminer de si quelqu'un peut faire du remplacement ou pas, tu sais, pensez à ça, là. Parce que là, à toutes les fois qu'on commande des situations comme ça, c'est bien normal. Tout le monde vit des cas d'espèce. Tout le monde vit des cas très nichés, des cas, des dossiers très personnels des membres de leur famille, eux-mêmes, dans le secteur de la santé, l'enseignement, peu importe c'est quoi. On n'a pas le choix de parler de ces trucs-là à haute altitude. Par contre, rappelez-vous toujours que ce qui importe, en tout cas, ça, c'est mon opinion, c'est la balance des inconvénients. Fait que si tu allèges un petit peu le processus de nomination de professeurs qui peuvent faire du remplacement pour contrer un épuisement professionnel généralisé dans le secteur de l'enseignement, je vais accepter la conséquence qu'il y a peut-être des maillets qui vont aller faire du remplacement si ça permet à un excellent professeur d'avoir 40 heures de moins à faire dans le mois, OK? Puis je dis pas que je maintiendrai ça de façon permanente. Tu sais, quand je parle de situations complexes qui ont des solutions simples, c'est de ça que je parle. Il n'y a pas de solution parfaite. Il faut toujours que soit gérée la très sensible et fragile balance des inconvénients. C'est toujours ça. Et là, ça me donne souvent l'impression qu'on crée des inconvénients pour contrer des inconvénients. Tu sais, là, le tabouin, les profs, en général, ont besoin d'un répit. Quand même que tu vas chercher, que ce soit une professeure à la retraite, que ce soit quelqu'un dont le champ d'expertise n'est pas ultra fucking niché, pointu dans regarde, ça va peut-être faire en sorte que ta masse critique de professeur qui est au bout du rouleau puis qui a le trou de cul en dessous du bras va avoir un répit, va pouvoir se former, va pouvoir corriger ses affaires comme du monde, va pouvoir vivre. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça, mais me semble, je suis pas plus fin qu'un autre, là, mais me semble. Et je vais le dire, on l'a dit hier, je dois le répéter aujourd'hui. On est capable de faire mieux.
Puis c'est pas juste dans le milieu de l'enseignement, dans les commentaires. 40 pages de documents, 3 entrevues, bulletins et preuves de vaccination complète pour aller faire du ménage dans un hôpital.
Ah ouais.
Quand je suis retourné à ma formation de soutien en milieu clinique, il a fallu que je renvoie mon bulletin de secondaire 5, ça qui date de 28 ans. Tu sais, à un moment donné, là, ça n'a aucun sens. Là,
C'est ça. Exactement. Moi, je compatis beaucoup. Avec les professeurs, avec le corps enseignant, je compatis beaucoup. Puis, tu sais, j'espère que, tu sais, on trouvera une façon organisationnelle de leur donner un peu de répit puis qu'il y ait une lumière au bout du tunnel. Ouais. Et je t'annonce, Frank, que c'est confirmé. On va en parler en fin de semaine aussi. Je veux pas divulgâcher de qui il s'agira, mais dans le crachoir dominical, on va se repencher sur cette question-là de façon encore plus concrète.
Avec quelqu'un qui s'y connaît et vous connaissez, que vous aimez beaucoup. Pour moi, ce qui est plus frappant, c'est l'enseignante, la sexagénaire qui a 30 ans de métier, à qui on demande le diplôme secondaire 5. Pour moi, c'est
ça. Ils vont faire des push-ups un coup parti. Va-tu falloir qu'elle fasse 30 jumping jacks à la minute? Là? C'est n'importe quoi.
C'est complètement insultant. As-tu une bonne nouvelle pour finir sur une bonne note?
Oui, en fait, cette bonne nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un, en fait. Là. Puis moi, peut-être pas pour moi? Nous autres, nécessairement. Non. Écoute, je te montre, je vais vous montrer, je vous montre cette image. Imaginez-vous, ça c'est une peinture d'un grand maître hollandais qui s'appelle Anthony van Dyck. qui va être mise à l'encan chez Sotheby's, dans la maison d'encan très prisée mondialement, qui devrait, on s'attend à ce que cette toile-là aille chercher quelque chose comme à peu près 3 millions de dollars américains. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, Eric, puis moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Ça m'intéresse beaucoup. Ça a été acheté, ça, dans une grande... C'était plein de marde d'oiseaux. Et ça a été acheté pour 600 $ par un coureux d'encan, un deal chaser, un brocanteur, appelle ça comme tu veux. Il y a plein d'émissions. Oui, exactement. La pièce, cette peinture-là s'appelle A Study of Saint-Jérôme. Et non, c'est pas une map de la ville. C'est vraiment... Et il y a un peu d'histoire à côté de ça, parce que il y a une ville dans l'État de New York qui s'appelle Kinderhook, et où un monsieur qui s'appelle Albert B. Roberts, qui était quelqu'un qui travaillait avec Anthony Van Dyck, qui s'est établi là, et c'est la raison pour laquelle on présume qu'elle s'est retrouvée dans ce secteur géographique-là. Cette pièce aurait été de toute évidence, là, par les spécialistes en la matière, entre 1615 et 1618. Et écoute, comme je te dis, ce dont on s'attend, c'est que ça aille chercher quelque chose comme 3 millions de dollars. Alors, deal of the century, cette personne aura mis la main sur cette pièce historique d'art pour 600$. Et précisons que la personne qui a payé le 600$, l'histoire ne le dit pas, mais le 600$, en fait, c'est que la personne, elle s'est juste carrément dit. D'après moi, c'est une œuvre importante, ça. Parce que la personne qui la vendait n'en connaissait fuck all l'histoire. Fait que la personne qui l'a vendue présumait que c'était de quoi d'important. Et la personne qui l'a acheté s'est dit, ouais, pense que ça a raison. Et les deux avaient raison. Mais celui qui perd au change, c'est le vendeur, bien sûr. Parce que l'histoire ne dit pas comment il avait obtenu ça. Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans ce genre de deal-là. Mais
écoute, ça a été authentifié, tout ça. Ben écoute,
absolument.
C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que ça va permettre à ce morceau de culture-là de perdurer dans le temps et d'être sauvé, puis pas finir dans un dégât d'eau, dans un conteneur.
Ou rester dans une chaîne pleine de marde d'oiseaux.
Voilà, ben c'est ça. Ou justement, c'est ça. Était là en train d'être perdu. Puis si c'est une œuvre importante, ben c'est le fun que ça fasse partie du patrimoine culturel mondial, peu importe qui a fait de l'argent avec, au moins, d'après moi, au prix qu'elle vaut maintenant, elle va être entreposée dans de meilleures conditions, genre
un musée. Et là, je te fais une prédiction. Nostradamus va vous faire une prédiction, parce que là, je viens de voir, puis j'imagine sa face de bleuet. Là. Si Suburban vient de dire la brute de Saint-Jérôme, on a quelqu'un dans le Tuskyverse dont le surnom est la brute de Saint-Jérôme, et c'est très affectueusement qu'on l'appelle comme ça. Et je sens qu'il y a de l'AI qui s'en vient entre cette peinture et le principal intéressé.
Ouais,
et je vois déjà les yeux pétillants du bleuet alors qu'il m'entend présentement. Il est déjà en train de faire ça.
En train de réaliser un nu de la brute de Saint-Jérôme, qui peut-être un jour fera partie du patrimoine culturel mondial aussi, et sera vendu sur Internet comme une carte de super-héros de Donald Trump.
Et là, le Bourbon vient de répondre. Tu sais, ça montre à quel point je connais cette personne bleuée, parce qu'il a répondu tellement. Alors, c'est réglé.
Bon. Et ben voilà, que c'est comme disait le pharaon, que ceci soit écrit et accompli, je pense que ça va se faire. Bon, ben on va suivre ce dossier-là aussi. Soyez avec nous demain pour le dernier crachoir express de la semaine. Et puis, je suis très enthousiaste à l'idée de recevoir la personne que tu as contactée pour dimanche pour le crachoir. On se tient au courant, sinon à demain midi, tout le monde dans la tempête.
Membre de la famille H2O Media.